Après ces choses, quand la colère du roi Assuérus se fut calmée, il se souvint de Vasthi et ce qu'elle avait dit Zéconia, roi de Juda, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transporté, et il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère, et la jeune fille était belle de taille et belle de figure. Et à la mort de son père et de sa mère, Mardochée la prit pour fille. Il arriva que lorsque la parole du roi et son édit furent connus, et que beaucoup de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égaï, Esther aussi fut amenée dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. Et la jeune fille lui plut et trouva faveur devant lui. Verset 10, Esther n'avait pas fait connaître son peuple et sa naissance, car Mardochée lui avait commandé de ne pas les faire connaître. Et chaque jour, Mardochée se promenait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment Esther se trouvait et ce qu'on faisait à son égard. Et quand venait le tour pour chaque jeune fille d'entrer auprès du roi Assuérus, après qu'il lui avait été fait pendant 12 mois, selon la règle établie pour les femmes, car c'est ainsi que se complétaient les jours de leur purification, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et les parfums nécessaires à la purification des femmes, et ainsi la jeune fille entrait auprès du roi. Le verset 15. Et quand arriva le tour d'Esther, fille d'Abikaïl, oncle de Mardochée, qu'il avait prise pour fille, d'entrer auprès du roi, elle ne demanda rien, sauf ce que dit Égaï, eunuque du roi, gardien des femmes, et Esther trouvait faveur aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale au 10e mois, c'est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Et le roi aima Esther plus que toutes les femmes et elle trouva grâce et faveur devant lui plus que toutes les vierges. Et il mit la couronne du royaume sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. Et le roi fit un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, le festin d'Esther. Et il octroya un dégrèvement aux provinces et fit des dons selon la puissance du roi. Verset 21. En ce jour-là, Mardochée étant assis à la porte du roi, deux des eunuques du roi, d'entre les gardiens du seuil, Bigtan et Thérèse se mirent en colère et cherchèrent à porter la main sur le roi Assuérus. Et la chose vint à la connaissance de Mardochée, et la rapporta à la reine Esther, et Esther la dit au roi au nom de Mardochée. Et on fit une enquête sur la chose, et elle fut trouvée telle, et les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Chapitre 3. Après ces choses, le roi Assuérus agrandit Haman, fils d'Amdata, l'Agagite. Verset 2 à la fin. Mais Mardochée ne se courbait pas et ne se prosternait pas. Verset 4 à la fin. Car il leur avait déclaré qu'il était juif. Verset 5. Et Haman vit que Mardochée ne se courbait pas et ne se prosternait pas devant lui. Et Haman fut rempli de fureur. Mais c'eût été une chose méprisable à ses yeux que de mettre la main sur Mardochée seul, car on lui avait appris quel était le peuple de Mardochée, et Haman chercha à détruire tous les Juifs qui étaient dans tout le royaume d'Assuérus, le peuple de Mardochée. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Et Haman dit au roi Assuérus, « Il y a un peuple dispersé et répandu parmi les peuples et dans toutes les provinces de ton royaume, et leurs lois sont différentes de celles de tous les peuples. Ils ne pratiquent pas les lois du roi, et il ne convient pas au roi de les laisser faire. » Verset 13, « Et les lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les provinces du roi pour détruire, tuer et faire périr tous les juifs. » Chapitre 4, premier verset. « Et Mardochée sut tout ce qui s'était fait, et Mardochée déchira ses vêtements, et se couvrit d'un sac et de cendre, et sortit au milieu de la ville, et poussa un cri grand et amer. » Jusqu'ici la lecture de la parole. Peut-être qu'on devrait juste répéter un peu les grandes lignes de ce qu'on avait vu la dernière fois. On sait que le peuple d'Israël, à cause de leur infidélité, était en captivité. D'abord les 10 tribus, et puis les 2 tribus, les Juifs et la tribu de Judas et de Benjamin, en Babylone. Et après le règne de Nebuchadnezzar et ses descendants, on voit dans le livre d'Esdras et d'autres livres aussi que Dieu a donné le règne à un autre roi, Cyrus. Donc d'abord, le règne était entre les mains du roi de Juda qui régnait à Jérusalem, la ville de Dieu vraiment. Mais à cause de leur infidélité et du fait qu'ils avaient introduit l'idolâtrie, Dieu a permis que le roi de Babylone les traîne en 3 ou 4 phases, et puis le temple était détruit, tout ça. Mais par la grâce de Dieu, on voit donc une restauration dans les jours de Zérobabel, et une partie des Juifs est rentrée à Jérusalem, on construit, donc d'abord placé l'autel sur sa base, puis reconstruit le temple et réinstitué tout le service selon les pensées de Dieu. Donc c'était vraiment une grande restauration, un grand réveil. Et dans les jours de Néhémie, on voit que la ville était reconstruite. Mais il y avait beaucoup de Juifs qui sont restés à Babylone ou sous le règne de Cyrus, Assur et d'autres villes dans son empire. Et dans le livre d'Esther, nous voyons comment Dieu a veillé sur eux. Dieu n'avait aucun lien officiel avec eux. Le service était à Jérusalem. Les prophètes étaient à Jérusalem. Tout cela qui était reconnu par Dieu était à Jérusalem et à Juda. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec cette grande partie de son peuple qui était à Babel et dans cette partie de l'empire des Perses? Dieu a veillé sur eux. Et nous voyons donc comment Dieu a veillé sur eux d'une façon spéciale. On voit la providence cachée dans ce livre d'Esther, d'une façon merveilleuse. Mais on voit aucun lien officiel, même pas de prière, même pas le nom de Dieu qui était mentionné. Et nous voyons donc, c'est la première signification de ce livre, de voir comment Dieu a veillé sur son peuple, qui n'était pas rentré à Jérusalem, qui appartenait à Dieu quand même, mais sans roi, sans prophète, etc. Nous avons vu la dernière fois que cette histoire a été donnée en même temps pour nous raconter un peu, ou présenter l'histoire future des Juifs, et surtout du reste des Juifs qui sera à Jérusalem. Et nous avons vu la dernière fois qu'il y a 3 livres dans l'Ancien Testament qui nous parlent de ce reste fidèle. On le voit dans le livre de Ruth. Là, on voit comment Ruth a trouvé Boaz. Et les Juifs, là, sont présentés par une femme étrangère pour expliquer que les Juifs n'ont aucun droit pour recevoir cette grâce, pour être rétablis dans cette relation avec Christ, leur Messie. Et dans le livre de l'autre livre que nous avons mentionné la dernière fois, c'est donc le Cantique des Cantiques, nous voyons comment sera présenté au roi, et dit, on voit dans ce jour-là que c'était Salomon, mais ça parle aussi du Seigneur Jésus comme le roi de paix. Comment serait fidèle des Juifs aura une relation de nouveau avec leur Messie. Donc ce sont tous des exercices qui sont présentés dans ce livre assez profondément. Mais dans ce livre-là, nous voyons serait rétabli dans leur relation avec Dieu. Et nous voyons Mardoché comme une image du Seigneur Jésus. Donc le Messie qui a souffert et le Messie qui sera exalté à la fin de ce livre. On voit cette ligne. Ici, ce n'est pas le reste fidèle qui marie, pour ainsi dire, le Messie, qui sera rétabli dans une relation d'amour avec le Messie. Non, ici le sujet c'est que ce reste fidèle aura une relation nouvelle avec Dieu. Et puis il faut donc bien distinguer ces pensées dans les autres livres et dans ce livre d'Esther. Nous avons vu donc la dernière fois que le roi nous parle de Dieu. Si on lit l'histoire littéralement, on a vu que c'est un homme colérique et avec beaucoup de manquements, et tout ce système-là, on voit que c'est loin des pensées de Dieu, mais on a vu que ce roi a reçu l'autorité de la part de Dieu, et comme tel, il représente Dieu qui est la source de toute autorité. Et puis nous avons vu que Toute cette histoire-là nous donne aussi des leçons morales pour nous. Parce que par la grâce de Dieu, nous aimons être aussi un reste fidèle au milieu de la chrétienté où les droits de Dieu sont rejetés. Et nous aimons donc trouver dans ce livre des leçons morales, spirituelles pour nous. Mais il faut donc bien comprendre que la signification prophétique est surtout pour les Juifs, pour leur histoire future, pour être introduit de nouveau dans cette relation avec le Messie et cette relation avec Dieu lui-même. Mais en même temps, on va voir aussi des leçons très pratiques et spirituelles pour nous. Nous avons vu dans le premier chapitre que c'est Dieu qui donne des bénédictions dans sa création. Et nous allons voir à la fin de ce livre d'Esther, à la fin, donc dans le chapitre 10, il y a une image du règne millénaire, que là c'est la couronne, pour ainsi dire, de cette bénédiction terrestre que Dieu donne. Et on doit donc être content et recevoir les bénédictions terrestres de la main de Dieu, et en jouir dans la dépendance. Et nous avons vu que Vasti, elle n'a pas connu cette dépendance, elle n'était pas soumise au roi. Et là, nous avons vu un autre aspect, pas seulement l'aspect qu'on trouve malheureusement souvent, que les gens dans ce monde jouissent de cette bénédiction sans Dieu, même comme rebelles. Mais nous avons vu aussi que Vasti nous parle de l'Église, que l'Église a été instruite par Dieu. Mais toutes ces leçons, comme on les trouve dans les épîtres du Nouveau Testament, ont été rejetées. Et le résultat, c'est donc qu'elle est mise de côté. Et c'est ça le cas avec l'Église professante. Dans Romains 11, nous voyons ce principe-là. L'Église professante sera mise de côté. Mais Dieu va avoir quand même son peuple un témoignage fidèle pour lui. Et donc, on va voir ça maintenant dans le chapitre 2, qui se passe maintenant. Et c'est donc une nouvelle étape, parce que le chapitre 2 commence par cette expression « après ces choses ». C'est remarquable, nous avons vu la dernière fois, les conquêtes et les défaites du roi d'Assyrus ne sont pas décrites ici. On sait par l'histoire que Assyrus avait des combats contre les Grecs, et il a eu une grande défaite. Dans le premier chapitre, c'était le temps où il se préparait pour cette guerre, et dans le deuxième chapitre, c'est après cette défaite. Mais c'est pas mentionné ici parce que c'était pas immédiatement en rapport avec le peuple de Dieu. Et Dieu donne donc l'histoire de ces batailles, de ces guerres, seulement s'il y a un lien avec ça pour le peuple de Dieu. Une autre chose qu'on aimerait souligner, c'est le verset 2. Il est serviteur du roi qui le servait. Dans la note, nous voyons qu'on peut traduire les serviteurs ici par jeunes hommes, les jeunes hommes. C'est une nouvelle expression. Nous avons vu des serviteurs du roi en rapport avec Vasti, même aussi les sages et les sept princes, on a parlé de ça, mais nous voyons ici les jeunes hommes du roi. Et c'est indicatif pour un nouvel ordre de choses qui se présente maintenant. Parce que il y aura une nouvelle reine, un nouveau témoignage, tout nouveau, un changement donc. Et en rapport avec ça, nous voyons cette expression, les jeunes hommes. Mais je pense que ça nous parle aussi de la résurrection. C'est remarquable, dans Marc 16, par exemple, où nous trouvons le tombeau du Seigneur, que là, il y avait des jeunes hommes. C'était des anges, on le sait. Mais là, ils sont présentés comme étant des jeunes hommes. Donc, on voit aussi que pour introduire cette nouvelle relation avec Israël, Dieu va rétablir cette relation sur la base de la résurrection. Et on peut dire, comme un principe général, toutes les promesses de Dieu, tout le conseil de Dieu, même en rapport avec Israël, sera réalisé sur la base de la résurrection. Puis le verset 5, maintenant, et quelquefois, je vais donc expliquer ces versets en rapport avec Israël, et quelquefois, Dieu voulant, on va voir des leçons pratiques pour nous-mêmes. On ne peut pas entrer dans tous les détails, mais juste quelques points. Dans le verset 5, nous voyons donc un homme juif. Il faut bien comprendre que Mardoché nous parle du Seigneur Jésus. Et d'abord, c'est donc un homme juif. Si on étudie la parole et on voit le Seigneur Jésus comme homme, c'est vraiment important de comprendre que il y a là un homme devant Dieu. Le Seigneur Jésus était Dieu parfait, c'est vrai, mais il était aussi homme. Et il est maintenant présenté ici par Mardoché comme un homme juif. Et plus tard, on va voir ça aussi, l'importance de cette expression juive. Mais ici, on voit Mardoché en même temps comme représentant du résidu, associé au résidu. On le voit même comme celui qui était transporté avec les captifs. On ne pense pas que c'était littéralement le cas avec Mardoché, parce que dans ce cas-là, il fait 150 ans ou plus âgé encore. Il avait pas cet âge-là, probablement. Mais c'est, son grand-père était transporté dans les jours de Cognac, probablement. Mais il est vu comme celui qui était transporté avec les captifs. Et cela nous explique quelque chose. Dans l'Ancien Testament, nous voyons souvent le Seigneur Jésus comme associé à son peuple, associé et même identifié avec le reste fidèle. Et c'est donc important à comprendre pour l'étude de la parole, surtout dans les psaumes et aussi dans les prophètes, que souvent nous voyons le Seigneur Jésus comme celui qui s'est identifié entièrement avec ce reste fidèle, ici en captivité. Il était benjaminite, d'origine même de la même tribu, donc le premier roi de l'Israël, donc probablement aussi de cette semence royale, comme plus tard aussi l'apôtre Paul. Une chose que j'aimerais lire en rapport avec ça pour montrer comment le Seigneur s'est associé toujours à ce reste fidèle, c'est un verset dans le psaume 16, juste lire le verset 3, « Tu as dit aux saints qui sont sur la terre et aux excellents, en eux sont toutes mes délices. » Ici, nous voyons ce principe, parce que ce psaume 16 nous parle du Seigneur Jésus, du vrai Messie, mais il est vu comme identifié avec ce reste fidèle. Et ce reste fidèle est ici indiqué par cette expression, « les excellents, en eux sont toutes mes délices. » On les retrouve dans le Nouveau Testament, dans les jours du Seigneur Jésus, on retrouve ce reste fidèle dans les disciples. Mais il faut aussi comprendre que ce reste, ce même reste, préfigure ce reste futur, on trouve ici dans ce livre-là, avec lequel le Seigneur Jésus sera identifié aussi, de nouveau. Donc après l'enlèvement, le Seigneur Jésus, comme le Messie, même dans la gloire, dans ce temps-là, il sera associé à ce reste fidèle sur la terre, comme il était associé avec les disciples dans ses jours sur la terre. Dans le verset 7 maintenant, nous voyons comment Mardoché s'est occupé de Hadassa. Hadassa, c'était donc le nom hébreu pour Esther. Esther était donc son nom dans la captivité, comme Mardoché avait son nom aussi reçu dans la captivité, comme Daniel aussi et ses amis dans Daniel 1 ont reçu un autre nom à cause de la captivité. Mais son nom hébreu est Hadassa, ça veut dire myrte. Et cela nous parle de nouveau de cette restauration. On le trouve, je l'ai juste mentionné, dans quelques fois dans les prophètes, nous trouvons cette myrte qui, juste dans Ésaïe 55, verset 13, au lieu de l'épine, croîtra le cyprès. Donc, au lieu de l'épine, dans la tribulation, Dieu va opérer quelque chose de bon, le cyprès. Et au lieu de l'ortie, croîtra le myrte. Ça parle donc de cette restauration. À cause des péchés de ce reste, ou de ce peuple Israël, il était dans l'oppression, dans la captivité. Ça parle de cette épine et cette sortie parle de cela. Mais au lieu de tout ça, Dieu va opérer quelque chose. C'est ça qu'on voit dans le myrte. C'est donc l'œuvre de Dieu qui changera tout ça. Et aussi dans le livre de Zacharie, on trouve cette myrte au début du chapitre 1er, qui nous parle de cette restauration maintenant, de ce reste dans leur pays, mais d'une telle façon aussi, on voit cette pensée de la restauration indiquée par le nom d'Esther ou Hadassa. Ce que je voulais souligner maintenant, c'est cette pensée-là. Il élevait Hadassa. Ça nous parle donc de ses soins. Et on voit dans ce chapitre 2, deux façons différentes dans lesquelles Dieu prend soin de ce reste. D'abord par les soins de Mardoché. Et nous pouvons penser ici au jour où le Seigneur Jésus était ici-bas. Il a pris soin de ce reste fidèle, comme ses disciples dans les évangiles. C'est touchant de voir comment le Seigneur Jésus les a élevés Il les a élevés à l'école de Dieu. C'est ainsi, le verset 7 nous parle donc de l'école de Dieu, où le Seigneur Jésus lui-même est le maître, pour ainsi dire. Et on voit dans les évangiles comment le Seigneur Jésus est vraiment le maître, celui qui enseigne. Et c'est touchant de voir tous ses soins en rapport avec les disciples, et ici donc en rapport avec Adassa. Et d'une même façon, j'aimerais suggérer que le Seigneur Jésus va prendre soin du reste fidèle dans le futur pour les élever. Et pour nous, nous sommes à l'école de Dieu. Quelle grâce d'être à l'école de Dieu pour être élevé, pour devenir des disciples. C'est vraiment une grâce spéciale comment le Seigneur Jésus s'occupe de nous. On voit par exemple dans Éphésiens 4 que le Seigneur, dans la gloire, il nous enseigne. Et c'est par ses soins ici que Adassa donc est élevé et formé. Ça parle donc de la présence du Seigneur avec son reste fidèle et aussi de ses soins pour les élever et pour, on peut l'appliquer pour nous. Un deuxième point que j'aimerais mentionner ici dans le verset 7, c'est le fait qu'elle n'avait ni père ni mère. Et cela nous parle donc du fait qu'elle était sans ressources humaines. Et on va voir ça en rapport avec le reste fidèle, que ce reste fidèle n'aura aucune ressource humaine. Et c'est très dur pour chaque homme, et surtout pour les Juifs, d'arriver à ce point-là, de reconnaître devant Dieu que j'ai aucune ressource. Ce sera le cas pour le reste fidèle. Sans aucune ressource, sans droit, comme on voit dans le livre de Ruth aussi, et dans le livre Cantique des Cantiques. C'est même pensé, sans droit, sans mérite, sans ressource humaine. Et puis, quand même beau devant Dieu. J'aimerais lier ça avec Moïse. On lit ici dans le verset 7, « Et la jeune fille était belle de taille et belle figure. » C'est humainement, c'est clair, mais ça parle aussi une langue figurative, spirituelle. Comme Moïse, c'est beau devant Dieu, où son peuple était en tribulation. D'une telle façon, ça reste fidèle aussi, sera beau devant Dieu. Mais comme orpheline, donc, dépendant de la grâce de Dieu, pas dépendant de ses propres efforts, comme aujourd'hui et dans le futur, mais dépendant de la grâce de Dieu. Que le sont pour nous? Aussi longtemps que nous sommes dépendants de nos propres efforts pour mériter notre salut, par exemple, ou pour nous améliorer, on est misérable. Mais le moment où on se place sous les soins de la grâce souveraine, on va croître spirituellement. Et c'est ça qui arrive à l'école de Dieu. On voit cette croissance, cette formation sous son enseignement, par la grâce de Dieu. Donc, que nous puissions faire des progrès aussi à l'école de Dieu. Puis on voit la providence cachée de Dieu dans ce chapitre, de nouveau, comme dans tous les chapitres. On le voit aussi dans le verset 8, à la fin, que Égaï, Esther, a accepté Esther et l'a trouvée grâce, dans le verset 9, devant lui. C'est aussi des soins providentiels de Dieu. Comme dans les jours de Daniel, il a trouvé grâce devant l'homme qui s'est occupé de lui, dans Daniel 1. C'est aussi les soins providentiels de Dieu. Mais pas seulement cela. Je pense que Égaï, ici, nous parle des soins que Dieu a pour son peuple d'une autre façon, par l'Esprit. Le nom Égaï veut dire soit épine ou soit méditation. Et je pense les deux ensemble. Parce que dans la tribulation, dans les souffrances desquelles parle l'épine, nous sommes instruits, nous sommes formés à l'école de Dieu. Mais aussi par nos méditations, sous l'influence de l'Esprit, sous la direction de l'Esprit. L'Esprit prend la parole de Dieu pour nous présenter Christ. On va voir ça plus tard. Et puis, par ces méditations, on est formé pour être agréable à Dieu. Parce que la grande pensée ici, dans le chapitre 2, c'est Esther qui est préparée pour être agréable au roi. Et dans ce temps futur, le reste fidèle sera préparé par le Saint de l'Esprit pour être acceptable moralement devant Dieu. Mais on voit littéralement qu'elle était comme une esclave. Comme Néhémie le dit dans le chapitre 9, nous sommes tous des esclaves sous le règne de ces rois. Mais en même temps, on voit que Dieu se sert de tous ces exercices pour former quelque chose de lui-même et pour lui-même dans son peuple. Le verset 10, nous voyons que ce n'était pas encore connu, Esther ni Mardoché appartenaient au peuple juif. On ne les avait pas encore fait connaître. Comme dans le chapitre 3, on va voir plus tard. On voit dans le verset 11 de nouveau les soins que Mardoché avait pour Esther. Il sera donc la même chose pour le reste fidèle. Le reste fidèle sera placé sous les soins du Seigneur Jésus et sous les soins spécifiques de l'Esprit Saint. Maintenant, on voit un peu quelques détails dans le verset 12 et 13, quelques détails de cette formation sous la responsabilité des Égaïs. Égaïs, j'ai dit, nous parle du Saint-Esprit comme le serviteur qui présente quelque chose de Christ. Et nous voyons dans le verset 12 dans quelle façon Esther était préparée pour le roi, avec de l'huile de myrrhe, le verset 12 à la fin, avec de l'huile de myrrhe. Là, c'était donc pour être formé. Plus tard, ce même reste, on le trouve dans le psaume 45, verset 8, je mentionne juste, vous pouvez vérifier ça à la maison. Là, on voit que même les vêtements sont caractérisés par cette myrrhe. Donc, ici, c'est le début. Le début de cette formation, c'est l'huile, qui parle aussi de l'opération, de l'œuvre de l'esprit, mais c'est l'huile de myrrhe. Et la myrrhe nous parle des souffrances du Seigneur Jésus. Certains arbres qui sont, ont fait des incisions et le sirop qui découle est donc préparé et c'est le myrrhe qu'on a. Et ces incisions donc par les souffrances du Seigneur Jésus, mais le résultat est quelque chose de beau. Mais ce qu'on a ici, que nous entrons dans ces exercices, nous, par l'enseignement de l'Esprit, nous allons comprendre ce que le Seigneur Jésus a souffert. Et c'est ici par les souffrances expiatoires, parce que nous ne sommes pas formés par les souffrances expiatoires. Les souffrances expiatoires du Seigneur Jésus sont la base sur laquelle nous pouvons exister devant Dieu. Mais les souffrances qu'on trouve ici ne sont pas des souffrances que le Seigneur Jésus a subies et que ce reste fidèle va subir dans le futur. Vous voyez, le Seigneur était à Jérusalem. Hérode était contre lui, l'image de l'Antichrist. Saint Pilate, le représentant des Romains, était contre lui. Et dans le futur, ce reste fidèle à Jérusalem va avoir la même situation. Le chef de l'Empire romain et l'Antichrist, le roi des Juifs, apostat, sera contre eux. Donc c'est un peu la même situation. Donc si on va comprendre le lien avec les souffrances du Seigneur Jésus de la part de son peuple, des souffrances qu'il a subies donc dans sa vie ici-bas, on va voir le lien avec ces souffrances futures que le reste fidèle va avoir. Et c'est très important à comprendre ça. Aussi en lisant les psaumes, on voit souvent que l'Esprit de Christ s'identifie avec ce reste fidèle. Et leurs souffrances sont ses souffrances. Et ses souffrances sont leurs souffrances. Donc je ne parle pas des souffrances expiatoires, il faut vraiment distinguer. Et en apprenant, en même temps, donc le reste fidèle traversera à travers ces souffrances, et en même temps, ils seront formés à l'école de Dieu. Ils vont apprécier ces souffrances aussi. Et ils seront en même temps formés pour être agréables devant Dieu. Et l'autre élément qui est mentionné ici, les aromates, ça parle des perfections de Christ et aussi les parfums nécessaires à la purification. On pense aussi à tout ce que cela veut dire pour nous. On le voit dans Éphésiens 5, verset 27, comment le Seigneur Jésus s'occupe de nous pour nous préparer pour son épouse dans le futur. On est déjà son épouse, mais le Seigneur veut nous préparer moralement, spirituellement, pour répondre vraiment au plan de Dieu, pour répondre au conseil de Dieu. Pratiquement. Et c'est la même chose ici, par ses souffrances, se restera préparé pour être agréable à Dieu. Et au moment donné, on voit donc qu'elle a été présentée au roi, et dans le verset 15, nous voyons que son père était Abikaïl, ça veut dire père de puissance, comme Boaz, un homme puissant, c'est la même pensée. Elle est la fille d'Abikaïl. Et on voit ici vraiment la force morale dans ce reste fidèle, comment ce reste sera formé pour Dieu. Un autre détail dans le verset 15, elle ne demanda rien sauf ce que dit Égaï. Donc, dans cette nouvelle relation où elle est introduite maintenant, en rapport avec le roi, elle était contente avec tout ce que Égaï avait préparé. Et cela nous parle de ce reste avec lequel le Seigneur a associé d'un côté, mais avec lequel Dieu s'est identifié. On le retrouve dans le Nouveau Testament, ceux qui font la volonté de Dieu. Esther, pour Esther, c'était suffisant ce que Dieu avait donné par Égaïe, donc par les soins de l'Esprit Saint. Et c'est une caractéristique du récit des eux seront contents avec ce que Dieu leur donnera. Donc, autrement, pour nous maintenant, ceux qui font la volonté de Dieu. Le Seigneur s'associe avec eux, mais aussi Dieu lui-même. Maintenant, dans le verset 17, nous voyons donc que le roi aima Esther plus que toutes les femmes, et elle trouva grâce et faveur devant lui, plus que toutes les vierges, et mit la couronne du royaume sur sa tête, et la fit reine à la place de Vashti. On voit ici donc, en rapport avec les dispensations, que l'Église a été mise de côté comme témoignage pour Dieu, et Dieu a maintenant un autre témoignage, et ce sera ce reste fidèle à Jérusalem. Dans l'Apocalypse, on voit plus de détails, mais je voulais juste mentionner, dans Apocalypse 11, nous voyons déjà que Dieu reconnaît ce reste fidèle à Jérusalem. Dans le premier verset, nous disons, laisse-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui adorent. Et pour ceux qui connaissent un peu l'Apocalypse, ce sera clair que le chapitre 11 est avant que la grande tribulation commence. Et de telle façon, on voit ici donc Esther, qui parle du reste fidèle, introduit dans une relation avec le roi, donc dans une relation officielle maintenant avec Dieu, avant que la grande tribulation vienne. Ça, c'est un point important à considérer. Et plus tard, on voit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse que l'ennemi va l'attaquer, comme on va voir dans le chapitre 3 d'Esther. La terre vint en aide à la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc pour engloutir la femme. Mais ça c'est donc le peuple d'Israël en général. Tandis que dans le verset 17, nous voyons le résidu de la semence de la femme et c'est le reste fidèle à Judée et à Jérusalem dans les jours futurs. Donc on voit les provisions de Dieu pour introduire ce reste fidèle dans une relation officielle avec lui. Dieu va reconnaître ce reste fidèle, le service dans le temple sera rétabli, les sacrifices, tout cela, Dieu reconnaîtra cela avant que la grande tribulation vienne. Et maintenant pour nous, l'application pour nous, quelle joie pour Dieu si nous jouissons vraiment de cette relation avec Dieu. Je ne parle pas de notre position seulement, parce que positionnellement, tous les chrétiens ont une relation avec Dieu, sont des fils, des enfants de Dieu. Et ils appartiennent aussi à l'Église du Dieu vivant. Mais Dieu veut aussi que ce soit une réalité. Et c'est ça qu'on trouve ici. Par l'éducation à l'école de Dieu, on jouit pratiquement de cette relation que Dieu a établie entre lui et nous. Et le verset frappant est le verset 18. Et le roi fit un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs. Le festin d'Esther. On s'appelle que la reine infidèle voulait avoir un repas pour elle-même. Elle ne voulait pas avoir cette communion avec le roi. Mais ici nous voyons le festin d'Esther que le roi a fait pour elle. Et plus tard dans ce livre, on voit que Esther elle-même a préparé un repas pour le roi. Des deux côtés donc, le roi ici fait un festin pour Esther. Et plus tard, on va voir qu'Esther elle-même prépare un repas pour le roi. Et c'est quelque chose pour nous. Dieu veut partager avec nous, comme nous avons vu, toutes ces bénédictions. On a parlé dans le chapitre 1 de ces bénédictions terrestres. Il les partage avec nous par sa grâce. Mais surtout, il veut partager avec nous tout ce qui est dans son cœur. Il veut nous donner ce grand festin pour partager avec nous toute sa joie, pour ainsi dire. Et c'est notre privilège d'être à sa table. On peut penser d'un côté à ces expressions comme la cantique des cantiques où l'épouse était assise à la table du roi, mais là c'est la relation avec le Messie. C'est ici la relation avec Dieu, dans la communion avec lui. Mais c'est donc important de réaliser que c'est avant la tribulation. Et aussi pour nous, avant que les tribulations viennent, je ne parle pas de la grande tribulation, mais en général, Dieu nous introduit dans cette relation établie afin que nous puissions traverser à travers ces tribulations. Maintenant, un autre détail dans ce chapitre 2 à la fin, où nous voyons Mardochée à la fin du verset 20, comme celui qui prend soin d'Esther, même
Là, dans ce temps-là, à la fin du verset 20, et Esther faisait ce que Mardoché disait, comme lorsqu'elle était élevée chez lui. Donc les soins du Messie continueront, les soins de l'Esprit continueront également. Dans le verset 21 et 22, on voit un autre principe. On voit le principe de la rébellion. Et là, de nouveau, Mardoché joue un rôle comme celui qui maintient les droits de Dieu. Et nous savons que le Seigneur Jésus, lorsqu'il était ici-bas, il a maintenu les droits de Dieu. On lit dans le psaume 45, par exemple, le verset 7, « J'ai haï l'injustice ou l'iniquité, et il a aimé, j'ai aimé la justice. » Donc, il a maintenu les droits de Dieu. Et ici, on voit comment Mardoché a pris soin des droits du roi. Il a protégé le roi. Et nous voyons ici aussi une image dans ces deux eunuques, je pense, de l'Antichrist et du chef de l'Empire romain qui rebelleront contre Dieu vraiment, se révoltent contre Dieu. Enfin, l'apostasie, vraiment, se trouvera dans ce temps-là, mis de côté de toute autorité. C'est aussi dans le livre de l'Apocalypse, mais aussi dans 2 Thessaloniciens 2, on va voir ça. Mais ici, on voit déjà dans les jours du Seigneur Jésus, ici-bas, l'ennemi était là pour contre les droits de Dieu. Mais le Seigneur Jésus a maintenu les droits de Dieu. Et on voit que le Seigneur Jésus a même payé ce prix de sa mort pour maintenir les droits de Dieu. Et on voit ici un autre détail. Esther a parlé au roi au nom de Mardoché. C'est bon ici, à la fin du verset 22, de voir comment Esther a parlé au roi au nom de Mardoché. Il y aura donc cette relation avec le Messie, avec Mardoché, et cette relation avec Dieu. Et c'est aussi pour nous un privilège de pouvoir parler à Dieu au nom de Mardoché. On le trouve dans les évangiles aussi, surtout dans l'évangile selon Jean, qu'on peut s'adresser à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus. Mais aussi parler de lui, parler des choses qui le concernent, communiquer avec Dieu simplement de ce qu'il a fait. Imaginons, ces pensées-là qu'on trouve dans les versets 21 et 22 impliquent la mort du Seigneur. On parle de cela à Dieu. C'est notre privilège. Et on voit ici dans le verset 23 que tout cela a été écrit, mais comme dans les jours de Joseph, où il était en prison, ces deux eunuques, l'un était pendu, l'autre était exalté, mais celui qui était exalté l'a oublié. Et aussi dans ce temps-là, on l'a oublié ce que Mardoché a fait. Et en général, parmi les chrétiens, on a oublié ce que le vrai Mardoché a fait. Totalement oublié. Mais Dieu ne l'oublie pas, comme on va voir plus tard. Maintenant, de nouveau, un grand changement dans le chapitre 3. Après ces choses, c'est dans la deuxième année, donc 5 ans plus tard, comme on va voir dans le verset 7, la deuxième année. Quel changement! Et si on lit ce chapitre et on comprend déjà que le roi parle de Dieu, que Mardoché nous parle du Seigneur Jésus, on ne peut pas comprendre vraiment comment ça se fait. Que le roi a agrandi sa main. L'ennemi, l'oppresseur de Dieu. Comment ça se fait? On ne peut pas comprendre. Mais j'aimerais lire ici deux passages. D'abord dans Ésaïe 55, le verset 8, juste au principe général. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et dans Zacharie, dans le livre de Zacharie, chapitre 11, nous voyons Zacharie 11, verset 16, « Car voici, je suscite un berger dans le pays, qui ne visitera pas ce qui va périr, qui ne cherchera pas ce qui est dispersé, à la fin, mais il mangera la chair qui est grasse. » Ça, c'est le verset 16. Dieu suscite ce berger, et c'est un berger insensé. Ça parle de l'Antichrist. On voit ici que c'est Dieu qui suscite ce roi. On pense au jour de Saül. Saül était le roi selon le désir du peuple. Et l'Antichrist sera aussi le roi selon le désir du peuple apostat. Mais au fond, c'est Dieu qui suscite. À cause de l'endurcissement du peuple, c'est Dieu qui permet ça. Et c'est donc dans le conseil de Dieu ce développement. Comme on a vu dans Ésaïe, ses voix sont plus hautes que nos voix. Mais il y a un autre verset, verset 17 ici. Malheur au pasteur de néant qui abandonne le troupeau. L'épée tombera sur son bras et sur son œil droit. Son bras sera entièrement desséché et son œil droit sera entièrement obscurci. Donc ici, c'est le jugement de la part de Dieu. Et ces deux phases, on voit aussi dans le livre d'Esther. On voit d'abord que Dieu permet que Haman soit agrandi, qu'il soit élevé, exalté, comme image de l'Antichrist. Et plus tard, on va voir que le roi le met de côté. Maintenant, on va voir que Dieu a préparé toutes ces voies. Dieu a préparé même la grande tribulation pour purifier ce reste fidèle. Mais Dieu a aussi préparé les souffrances de Christ. On le trouve juste peut-être parce que ça peut aider beaucoup dans Acte 2, le verset 23. Dans Acte 2, le verset 23, nous lisons concernant le Seigneur Jésus, et on parle donc de Mardoché comme le minage du Seigneur Jésus. Dans Acte 2, verset 23, Pierre dit que le Seigneur Jésus a été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu. C'était donc quelque chose que Dieu avait défini, déterminé et préconnu. Et puis il ajoute, lui, vous l'avez cloué à une croix et vous l'avez fait périr par la main d'hommes iniques. On voit ici donc ces deux côtés, le conseil de Dieu et la responsabilité de l'homme. Et ce que l'homme fait sous sa responsabilité accomplit ce que Dieu avait déterminé dans son conseil. Ce ne sont pas des choses qu'on peut comprendre intellectuellement, mais ce sont deux principes, la grâce souveraine de Dieu et son conseil d'un côté et la voix de Dieu de l'autre côté en rapport avec la responsabilité de l'homme. Et on voit que ces deux vont ensemble. Et ici donc, du côté de la responsabilité de l'homme, on voit un homme qui se rebelle contre Dieu, plus tard, on va voir ça, mais qui surtout veut mettre de côté ce peuple de Dieu. Et c'est un ennemi ancien, parce que dans le chapitre 3, verset 1, nous trouvons que Haman était un Agagite, et selon la note, c'est un descendant de Agag, le roi d'Amalek. Et puis on retrouve déjà dans le livre de Genèse que Amalek était le petit-fils d'Ésaü, d'Édom. Et dans le livre, mais on ne peut pas lire maintenant tous les versets à cause du temps, mais je vais mentionner quelques versets que vous pouvez lire à la maison. Dans Nombre 24, dans la prophétie de Balaam, on voit que Amalek est le vaincu détruit par le roi aussi qui sera exalté parmi Israël. Et on voit dans le livre d'Exode déjà, bien vite après la sortie de l'Égypte, que Amalek a attaqué Israël. Et là, sous Aaron et Moïse, le peuple était protégé, et aussi sous Josué, et la main de Dieu était sur le trône de Dieu, Deutéronome 25, pour mettre de côté ce peuple d'Amalek. Mais ce sera un combat pour toutes les générations. Et c'est remarquable qu'on retrouve cet ennemi dans chaque génération. On le trouve dans les jours de Saül, dans les jours de David. On le retrouve ici, même où le peuple de Dieu était en captivité. Et on le trouve, j'aimerais suggérer, même présenté par Hérode. Hérode était un Édomite. Et peut-être même donc de cette lignée d'Agag. On ne sait pas, mais en tout cas, c'était un Édomite. Et puis on voit dans l'histoire que l'ennemi de Dieu, derrière tout ça, c'est Satan. Satan a toujours essayé à mettre de côté l'homme de Dieu ou le peuple de Dieu. On le voit déjà dans Genèse 6, par exemple, Dieu avait promis cette semence de la femme, et puis toute la semence était corrompue, sauf la génération de Noé. Et plus tard, il y a beaucoup d'exemples où nous voyons l'attaque de l'ennemi pour mettre de côté le peuple d'Israël ou bien le Messie, comme David était persécuté par Saül. Si David serait tué, le Messie ne serait pas né. Donc on voit l'ennemi attaque toujours le peuple de Dieu et son Messie. Et on voit ici donc cet ancien ennemi du peuple, mais aussi de Dieu, au fond. Mais comme on l'a vu, en principe, Dieu permet ça. C'est sous le contrôle de Dieu, ce développement est selon le plan de Dieu. Verset 2 à la fin, nous voyons Mardoché ne se courbait pas et ne se prosternait pas. Nous avons vu dans le chapitre 2 à la fin que Mardoché a maintenu les droits du roi, et on peut dire les droits de Dieu, comme image du Seigneur Jésus. Et ici, c'est la même chose, Mardoché ne se courbait pas. Nous pensons au Seigneur Jésus, dans ses conflits avec Satan, il ne s'est pas prosterné devant lui, dans ses tentations, ni sur la montagne, ni plus tard dans le jardin de Gethsémané, ni à la croix. Le Seigneur Jésus était ferme. Et d'une telle façon, le reste fidèle sera ferme. Le reste fidèle dans les jours de Daniel était ferme. Ils ne se sont pas prosternés devant l'image du roi. Ni Daniel lui-même, il était fidèle. Il ne s'est pas prosterné devant le roi Darius, mais il a prié à son Dieu. Donc il était fidèle. Et pour nous, c'est une leçon. Parce que nous sommes fidèles dans cette société presque apostate et idolâtre. Et plus tard, on voit dans le verset 4 à la fin, car il leur avait déclaré qu'il était juif. Nous avons vu au début du chapitre 2, c'est un homme juif, ça parle donc de sa force devant Dieu, un homme juif, mais il était juif. Un juif veut dire quelqu'un qui loue Dieu. Quelle pensée que Dieu avait ici-bas sur la terre, un homme qui l'a loué, qui a pas seulement cherché les intérêts de Dieu, mais qui l'a loué vraiment. Donc à cause du fait qu'il y avait ici un homme qui a loué Dieu, l'ennemi se met en rage contre lui. C'est vraiment quelque chose que l'ennemi maîtrise. Le moment où on va louer Dieu, l'ennemi nous attaque. Et c'est le Seigneur Jésus qui était le premier à être attaqué. Mais il ne s'est pas prosterné devant lui. Il a continué en fidélité, comme on voit dans ce chapitre. Et dans le verset 6, nous voyons qu'il est identifié avec son peuple. Et c'est aussi une pensée très belle. Le peuple de Mardoché. Et d'une telle façon, on peut dire, il y a donc ce lien entre le vrai Messie, le vrai Mardoché et son peuple. C'est le cas avec le peuple d'Israël, mais c'est aussi moralement le cas avec nous. Il y a ce lien, donc, qu'on ne peut pas briser, ce lien entre lui et nous. Et puis, à cause de ça, Haman voulait détruire pas seulement Mardoché, mais tous les Juifs. Donc on voit ici, à cause de ça, on va voir dans le chapitre 4, les souffrances de Mardoché, mais en rapport avec ça, les souffrances du reste fidèle, du peuple de Mardoché. Donc malheureusement, le temps passe tellement vite, donc on doit se limiter à quelques pensées maintenant dans le chapitre 3. On voit que Haman a utilisé des méthodes occultes. Verset 7, nous voyons qu'il était dirigé par la superstition, c'était un homme très fier, c'est très clair, mais aussi sous l'influence de la superstition, et j'aime croire, à cause du fait qu'ils ont jeté le pur, que c'était aussi comme un serviteur de Satan, supplisant des méthodes occultes, comme le roi Nebuchadnezzar, comme on voit dans le livre d'Ézéchiel. Mais Dieu est en contrôle, c'est ça qui importe. On voit que d'un côté, l'ennemi fait son mieux pour attaquer le peuple de Dieu, mais Dieu est en contrôle. Et même si le sort est jeté, on voit que Dieu a surveillé. Et puis Dieu a pris soin que ce sera pour le 12e mois. On a commencé le premier mois, le mois de Nisan, le verset 7. Mais par ce sort, en jetant le pur, on a déterminé le 12e mois comme le mois où le peuple serait détruit. Vous voyez comment Dieu a surveillé, parce que cela donnerait donc un temps de 12 mois. Le sort pourrait indiquer un mois, mais le sort était jeté d'une telle façon que cela a indiqué le 12e mois. Donc ça, c'est le contrôle de Dieu en tout ça. Mais ici, le verset 8, c'est un beau témoignage. C'est un peuple dispersé, ou quelques versions ont séparé. Et nous sommes aussi un peuple dispersé parmi toutes les nations. Les chrétiens sont un peuple dispersé parmi toutes les nations. Deuxièmement, leurs lois sont différentes de celles de tous les peuples. C'est le cas pour les Juifs, mais c'est aussi le cas pour les chrétiens. C'est donc la vérité. Mais voilà, le mensonge. À la fin du verset 8, ils ne pratiquent pas les lois du roi. C'est pas vrai. Les Juifs étaient fidèles au roi. Les chrétiens sont fidèles au roi parce que c'est l'autorité que Dieu a donnée. Romains 13. 1 Pierre 2, par exemple, nous parle aussi que nous sommes soumis au roi comme chrétiens. Donc c'est ici un mensonge. Et puis on voit que le roi donc permet à Haman d'aller en avant pour préparer que tout ce peuple soit détruit. Donc c'est vraiment remarquable de voir comment le roi permet ça. Mais si on comprend donc que Dieu est en contrôle et que Dieu a un plan pour son peuple, que ses voix sont plus élevées que nos voix et que Dieu va à la fin avoir quelque chose pour lui-même à cause de tout ça, dans ce cas-là, on peut comprendre ce qui se passe ici. Mais on va voir la prochaine fois, Dieu voulant, dans le chapitre 4, que les souffrances de Mardoché. Donc les souffrances par lesquelles il est passé, comme on a lu dans le premier verset, sont les mêmes souffrances que le reste fidèle passera à travers. Et donc, je ne parle pas ici des souffrances expiatoires du Seigneur, mais les souffrances comme homme ici-bas, dans un peuple apostat, parmi un peuple apostat, attaqué par des dirigeants apostats qui s'élèvent contre Dieu, et les mêmes souffrances seraient fidèles à moi. Et on voit donc ce lien entre lui et Seraph. Et en lisant ce chapitre, il faut vraiment garder ceci en mémoire, parce que cela va aider beaucoup des souffrances que le Seigneur Jésus a eues il y a presque 2000 ans, seront donc les mêmes souffrances que Seraph fidèle va passer à travers. Mais au début, on voit que Esther n'a pas compris ça. Et d'une telle façon, le reste fidèle ne comprenant pas cela, et ils auront besoin d'être instruits pour cela. Mais pour nous aussi, souvent, Dieu permet des souffrances, des tribulations, et on a besoin donc d'être instruits par l'Esprit de Dieu pour comprendre pourquoi, et souvent on ne peut pas comprendre, mais pour se confier à Dieu, pour apprendre d'être dépendant de la grâce souveraine de Dieu. C'est ça le sujet qu'on va voir, Dieu voulant, la prochaine fois, d'apprendre qu'on est entièrement dépendant de la grâce souveraine et que Dieu permet ces choses pour nous former et pour, à la fin, nous introduire dans ce règne glorieux avec le Seigneur Jésus. Ce sera une gloire pour le peuple d'Israël, ce sera une gloire pour nous aussi. Et en même temps, on a donc beaucoup de leçons à apprendre en lisant ce chapitre, mais aussi à se remettre à Dieu qui est au fond en contrôle de toutes ces choses. Que son nom soit loué.